Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2023 est estimé à près de 12 millions, soit 18,46% de la population française. Ce sont les derniers chiffres publiés par l'INSEE concernant l'année 2018. La crise économique engendrée par la crise sanitaire Covid a fait exploser le nombre de pauvres en France. L'INSEE publie ses chiffres officiels avec près de 2 années de retard. Les chiffres officiels du nombre de pauvres en France en 2020 seront donc publiés en 2022. Autre vecteur d'indice, le nombre de demandes d'allocation RSA ayant grimpé en flèche, plus 14% depuis la mi-2020 par rapport à 2019. Le Secours populaire s'alarmait de son côté en octobre 2020 des ravages de la crise sanitaire et mettait en garde contre une flambée de pauvreté sans précédent, après un confinement qui a fait exploser le nombre de nouveaux précaires. 45% étaient jusque-là inconnus de l'association, indique son baromètre annuel réalisé avec Ipsos. Quelle solution face à la pauvreté? Le gouvernement dévoilait fin septembre sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, un plan particulièrement attendu qui devait à l'origine être présenté en janvier 2023. Les associations redoutent son manque d'ambition alors qu'il arrive dans un contexte de forte inflation. Parmi les mesures déjà annoncées figurent dans le pacte la création d'un pass scolo pour les enfants de CM2, l'ouverture des collèges en REP et REP+, des quartiers ou les secteurs isolés de 8h à 18h, y compris pour les élèves ayant fini leurs cours ou en attente de les commencer pour lutter contre l'inégalité scolaire, ou encore la création de 200 000 places de crèches d'ici 2030. Les territoires zéro non recours visant à détecter les usagers qui ne demandent pas de prestations sociales alors qu'ils y ont droit pourraient également faire partie du pacte. Tout comme le second plan quinquennal, Logement d'abord, dont l'objectif est d'accompagner vers le logement des personnes sans domicile. Dans ce contexte marqué également par une forte inflation, les demandes affluent auprès des distributeurs d'aide alimentaire, conduisant des associations au bord de la rupture, comme les Restaurants du Cœur, qui ont poussé un cri d'alarme début septembre. Des mesures qui vont dans le bon sens, mais qui restent largement insuffisantes au regard de la situation actuelle, estime Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Les enjeux sont énormes. Chaque jour, quelques 6000 personnes à la rue appellent le 115, mais n'obtiennent pas de solution, dont 2000 enfants. On ne peut pas accepter ça, nous dit-il.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
La semaine du vivant, prochainement, Beaujolais-Pierre-Doré, pour aborder les enjeux de demain et apporter des solutions concrètes pour la transition écologique en cours. Une initiative de l'association Demain, c'est ici et maintenant, accompagnée de nombreux partenaires locaux.
Audrey Tchéberry, je suis coprésidente de l'association Demain, c'est ici et maintenant. Et je suis plus particulièrement attachée à la question de l'agroécologie sur laquelle nous œuvrons dans l'association. Tout à fait. Nous organisons du 6 au 15 octobre de cette année la semaine du vivant, qui est une semaine consacrée au sol, au réchauffement climatique, à la santé, aux plantes bio-indicatrices, sur différentes activités qui sont à la fois des conférences et des sorties botaniques.
Qui vous accompagne ?
Des microbiologistes et des botanistes, donc par exemple Gérard Dusserf, qui est spécialiste des plantes bio-indicatrices et qui est botaniste, et puis Marc Néra, qui est un élu local, qui est notamment sur la commune de Pommiers, et puis qui est lui microbiologiste avec une spécialisation sur les sols, les mycorhizes, et qui œuvre notamment au Sénégal sur des projets agroécologiques et contre la désertification, bien sûr.
Une définition du vivant.
Le vivant, c'est un ensemble, je dirais que c'est l'intégralité de notre écosystème terrestre, au final, dont nous faisons nous-mêmes partie. Donc le vivant, ça touche au final les sols, ça touche l'eau, ça touche également l'atmosphère, puisque de nombreux organismes vivent dans ces différents milieux. Voilà, et puis une chose qui est très importante, je pense, nos scientifiques le pensent aussi, c'est que le vivant, on en fait partie, on fait partie de ces écosystèmes intégralement. Voilà.
gros, c'est la vie.
La vie.
Le vivant, c'est la vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour chaque espèce vivante, c'est naître, se développer, croître, et puis dépérir, et enfin mourir. On a tous la même ligne, j'allais dire, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est l'intégralité de ces interactions. Et puis, il y en a une qu'on oublie très souvent, c'est que quand on meurt, il y a aussi une partie recyclage qui permet une renaissance derrière d'autres organismes notamment. Et c'est l'éternel cercle du vivant qui est sans cesse en recyclage d'ailleurs.
Une réflexion à partager tout en se rappelant les fondamentaux.
Oui, tout à fait. Le système actuel nous amène aujourd'hui justement bien souvent à nous sortir du vivant, à nous extrapoler de cet écosystème. L'idée, c'est de se rapprocher effectivement de la nature, de ce qu'elle est.
De la comprendre.
De la comprendre. C'est aussi elle qui nous a créés. Donc de comprendre ces mécanismes finalement de fonctionnement qu'on a trop tendance souvent à mettre de côté. Donc de ce côté-là, vous avez raison, il y a un retour aux essentiels. Néanmoins, on n'a jamais eu autant de connaissances scientifiques qu'aujourd'hui. Ces connaissances s'accélèrent, notamment sur la partie botanique, les sols, la manière dont fonctionnent ces écosystèmes. Et ceci, ce n'est pas un retour en arrière, c'est vraiment du progressisme, des connaissances qu'on acquiert maintenant et qui s'accélèrent.
Différentes thématiques seront abordées.
Oui, alors on va aborder le thème des sols, forcément les thèmes de l'agriculture. La désertification également, le cycle de l'eau, les plantes, la botanique, les plantes bio-indicatrices qui permettent notamment d'effectuer des diagnostics de sol et de comprendre leur évolution, d'où ils viennent et où ils vont, où ils nous emmènent, mais également de quoi ils sont composés, par quoi ils ont été influencés, par notamment des métaux lourds, par exemple, liés à nos activités, etc., ou leur dégradation. La désertification se voit aussi à travers les plantes indicatrices. Aujourd'hui, on retrouve des plantes, notamment sur nos sols et sur nos sols viticoles, qui viennent d'Afrique du Nord. On va parler d'écologie. L'écologie, finalement, c'est la science qui décrit aujourd'hui notre habitat. Notre habitat, c'est notre planète, notre système Terre. Il faut savoir que si on sait l'apprendre, elle nous donne tous les outils. Elle nous donne les outils, notamment du réchauffement climatique, du cycle de l'eau, de la restructuration des sols dégradés.
La santé.
La santé humaine, la santé des écosystèmes, la santé animale.
Qui
est un sujet central.
Qui va de pair. Et puis également, vous l'avez dit, les plantes qu'on ne soupçonne pas sous nos pieds.
Voilà. Et puis, on va sortir un petit peu des préjugés, c'est-à-dire qu'on va aborder ces plantes avec leur rôle. Souvent, on les appelle des mauvaises herbes, des pestes, etc. Elles envahissent nos champs, elles envahissent nos cultures. Et pourtant, elles sont bien souvent là pour réparer nos sols. Et ça, c'est un changement de prise, c'est une acculturation. Donc on va amener aussi chacun à comprendre ces systèmes et à sortir un petit peu de leur cadre habituel.
Les rendez-vous à ne pas manquer.
On vous propose tout au long de cette semaine des sorties botaniques, des conférences sur le territoire, en proximité, qui seront en pleine nature, mais aussi dans des parcelles viticoles, etc., et qui pourront amener une expérience concrète de la manière dont se traduisent les événements sur le terrain. Deux conférences qui sont à noter. Une conférence qui aura lieu le vendredi 13 octobre, qui sera animée par Gérard Ducerf, qui est spécialiste des plantes bio-indicatrices, c'est un botaniste. Bio-indicatrice alimentaire et médicinale, puisque c'était également quelqu'un qui a des compétences sur l'apport de ces plantes vis-à-vis du domaine médical et alimentaire. Cette conférence donc aura lieu à Bagnols le 13 octobre prochain, voilà. Et une seconde conférence le lendemain, le samedi 14 octobre, aura lieu à Châtillon-d'Azergues avec Gérard Ducerf, donc spécialiste, et Marc Néra, qui lui est microbiologiste, spécialiste de la mycorhize, l'association du champignon et de l'arbre ou des plantes qui permet à celle-ci de se nourrir et de se soigner. Et on aura une conférence typiquement sur la désertification.
Plus d'infos et l'OASO, demain, c'est ici et maintenant. Vincent Bred est designer et maître verrier. Il utilise la technique traditionnelle du soufflage à la canne. Il est actuellement en résidence à l'atelier Vermorel à Villefranche et il a été sollicité pour réaliser une œuvre artistique pérenne à la maison Vermorel.
Alors, j'ai déjà dessiné la trame de l'œuvre qui va s'appeler donc Un ciel de gourmandise. Et donc, le sujet est posé. Il y a déjà des œuvres qui sont créées. Il y a aussi des œuvres que les enfants de Villefranche et de l'agglomération ont créées, qui vont être intégrées dans cette œuvre-là. J'espère aussi pouvoir incorporer un petit peu des œuvres qui vont être le fruit de mes échanges avec le chef. Le fait de travailler avec des enfants de Belleroche, c'est parce que c'est les premiers qui sont concernés, c'est ceux qui habitent à côté, qui souvent n'ont pas cette possibilité d'être mis en lumière. Donc c'est assez important que certaines œuvres qu'ils ont pu dessiner, imaginer, ont pu être réalisées, donc devenues réelles en fait, et qu'ils soient intégrées dans cette œuvre-là de manière pérenne.
Que suscite le métier d'artisan d'art pour les jeunes ?
Je pense que les enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un rapport au réel. Parce qu'on évolue dans un monde où tout est un peu virtuel. Et je crois qu'ils ont foncièrement besoin de découvrir des choses qui sont non seulement ancestrales, mais qui sont des vrais métiers. Je dis pas que les autres ne sont pas des vrais métiers, mais en fait qui sont des métiers qui transforment la matière. Voilà, c'est des métiers qui ont existé, qui existent depuis 2000 ans, mais qui sont toujours les mêmes. En fait, on travaille aujourd'hui le verre comme on travaillait il y a 2000 ans. Voilà, et c'est vraiment que le fruit de l'imagination, de la création qui fait la différence.
Une commande donc d'une œuvre artistique a été faite par la ville.
L'œuvre va être installée à l'intérieur de la maison Vermorel et donc les enfants sont partie prenante de la réalisation de cette œuvre-là, en tout cas de la conception, puisque c'est leur création qui est prise en compte dans cette œuvre-là, qui sera bien évidemment à la même hauteur que mes propres créations. C'est vrai que les enfants, ils ont une imagination qui n'est pas brimée, contrairement aux adultes souvent qui sont un petit peu cloisonnés et qui ont peur de s'ouvrir et de libérer cette énergie créative qu'ils ont en eux. Les enfants, ils n'ont pas encore ça. Donc, ils ont cette pureté où, effectivement, dès qu'on leur donne la possibilité, ils ont une imagination qui est sans faille et qui est sans limite, en fait. Donc, ça, c'est super important. Et que ce soit des enfants qui sont dans les quartiers défavorisés ou dans les quartiers favorisés, ça n'a aucune incidence. Et peut-être même bien au contraire.
Les ateliers Vermorel sont animés par des artistes en résidence dans l'ancienne écurie du domaine rénovée. Toute l'année, des ateliers de transmission auprès des jeunes et des habitants du territoire se pratiquent. Une immersion créative qui donne lieu à des travaux réalisés en atelier et souvent présentés au public. Plus d'infos, villefranche.net.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.